Depuis Jakarta, voici La Voix de l'Indonésie. Diffusion en français, La Voix de l'Indonésie présente des actualités, des informations et des divertissements divers sur l'Indonésie. Et c'est ici que vous pourrez accéder à nos émissions tous les jours sur SW3325 et 4755 kHz ou via le site web www.voinews.id et l'application RRI numérique. La voix de l'Indonésie, de l'Indonésie au monde.
Bonsoir, chers auditeurs, comment allez-vous? Je suis très heureuse de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Nous allons vous présenter un certain nombre de programmes tels que le journal, le commentaire et d'autres infos, à savoir l'histoire d'aujourd'hui, Mon Indonésie, le magazine culturel, Apprendre l'Indonésien et des chansons indonésiennes. Bon, chers auditeurs, nous commençons par le journal.
RRI, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Chers auditrices et auditeurs, bonsoir. Voici la voix de l'Indonésie présente le journal d'aujourd'hui avec moi, Audrey. Il y a quelques événements à informer, entre autres. Président Joko Widodo a souligné qu'IKN a un conseil de villes forestières et non de villes concrètes. Secteur du meuble a pris un engagement d'exportation de 17 milliards de roupies vers l'Inde. Parlement indonésien et les Majlis du Kazakhstan partagent des pratiques de gestion parlementaire. Dizaines d'agents de santé de l'armée nationale indonésienne, TNI, effectuent une mission humanitaire à Gaza. Police indonésienne, Polri, prépare 150 hommes pour une mission de paix en Afrique centrale. Indonésie renforce ses relations avec l'Afrique à travers le Forum Indonésie-Afrique. Et police nationale indonésienne déclare que les troupes indonésiennes se classent au 7e rang des problèmes de paix dans le monde. Bon, chers auditeurs, voici les nouvelles en complet. Le président Joko Widodo a souligné que le Conseil de développement de la capitale indonésienne Nusantara, IKN, est une ville forestière et non une ville concrète. Cette confirmation a été transmise par le président Joko Widodo aux chefs régionaux de toute l'Indonésie au palais d'État Nusantara, IKN, Kalimantan Oriental, mardi 13 août. Selon le président, le conseil est de créer une ville respectueuse de l'environnement et durable, en mettant l'accent sur l'importance des espaces verts et des écosystèmes naturels dans le développement de la ville. Dans son sens, le chef de l'État a affirmé que tous les chefs de région peuvent planifier et créer des conseils de développement dans leurs régions respectives. Le président a également donné l'exemple de la ville de High Point, en Caroline du Nord aux États-Unis, surnommée la ville du meuble. En outre, le président a déclaré qu'IKN Nusantara porte également le conseil de ville intelligente avec toutes les activités soutenues par la technologie. Le ministère de l'Industrie de la République d'Indonésie a déclaré que le secteur national du meuble a enregistré un engagement d'une valeur d'exportation de 17 milliards de roupies lors de l'exposition Index Plus Delhi 2024 en Inde. Cela témoigne des efforts visant à élargir les marchés d'exportation vers des pays non traditionnels. C'est ce qu'a déclaré le directeur général de l'agro-industrie au ministère de l'Industrie, Putu Juli Ardika, à Jakarta mardi 13 août. Il a déclaré que lors de l'événement qui s'est tenu du 9 au 11 août, l'Indonésie était représentée par 6 entreprises et désignées de meubles. Par ailleurs, le personnel expert du ministère de l'Industrie chargé du renforcement des capacités industrielles nationales, Ignatius Warsito, a déclaré que l'Inde dispose d'un potentiel de marché assez important et prometteur. En effet, sur la base de données Index Plus, le marché de consommation indien a le potentiel de devenir le troisième plus grand au monde d'ici 2027. L'Agence indonésienne des affaires domestiques de la Chambre des représentants BURT a effectué une visite de travail à l'Assemblée du Kazakhstan à Astana. L'ambassade d'Indonésie à Astana, à travers un communiqué officiel cité par Antara, a déclaré mardi 13 août que la délégation du BORT, dirigée par le vice-président du BORT du Parlement indonésien, DPR RI, Novita Wijayanti, a été accueillie par l'ambassadeur d'Indonésie à Kazakhstan et au Tadjikistan, M. Fajrul Rahman, et le président de la Commission des affaires internationales, de la défense et de la sécurité du Majlis, au parlementaire du Kazakhstan, Aygul Huspan. Selon Novita Wijayanti, cette visite de travail au Kazakhstan avait pour but de discuter ou d'échanger des idées sur les expériences menées dans le cadre des efforts visant à renforcer les institutions parlementaires et leur système de soutien. Par ailleurs, l'ambassadeur Fajrul Rahman a déclaré que l'Indonésie et le Kazakhstan entretiennent de solides relations bilatérales à tous les niveaux, non seulement au niveau gouvernemental, mais également au niveau parlementaire. Il estime que grâce à la visite de cette commission parlementaire, la coopération parlementaire et les relations bilatérales entre les deux pays deviendront plus étroites et plus fortes. Le Centre d'information de l'armée nationale indonésienne, Puspen TNI, a déclaré que jusqu'à 40 agents de santé de son agence ont été transportés par avion à Gaza, en Palestine, vendredi 9 août, dans le cadre d'une mission humanitaire pour aider les Palestiniens. Le Puspen TNI, dans un communiqué de presse mardi 13 août, a déclaré qu'il travaillerait à l'hôpital flottant des Émirats Arabes Unis, EAU, avec un poste de contrôle au centre de santé de l'armée nationale indonésienne, TNI, pendant 4 mois dans la région d'El Arish, en Égypte, en ajoutant à l'évolution de la situation. Le Puspen TNI a expliqué que l'hôpital flottant est un navire hôpital appartenant aux Émirats Arabes Unis et qui est l'un des centres d'aide internationale pour les missions humanitaires à Gaza. Puspen TNI a ajouté qu'on espère que cette assistance contribuera à réduire les souffrances et à aider au redressement de Gaza. Cet effort reflète également l'engagement de l'Indonésie en faveur de la solidarité mondiale et du soutien aux efforts de paix. La diffusion des relations internationales de la police nationale indonésienne, Polri, prépare 150 membres de la troupe Garuda Bayangkara pour une mission de maintien de la paix de l'ONU en Afrique centrale. La cérémonie traditionnelle de remise des 150 membres de la troupe Garuda Bayangkara, qui sont membres de la mission intégrée multidimensionnelle de stabilisation de l'unité de police constituée en République centrafricaine ou de contingent FPU 6 MINUSCA a eu lieu à Ranca Upas, région de Bandung, Java occidentale, mardi 13 août. Le personnel de la troupe Garuda Bhayangkara s'acquitte de la tâche consistant à protéger les biens de l'ONU, à faciliter l'aide humanitaire, à assurer la protection des droits de l'homme, à soutenir la justice et la suprématie du droit. Le chef de la division des relations internationales de la police nationale, l'inspecteur général de la police, Krishnamurti, a déclaré après la cérémonie d'inauguration que le personnel qui partirait provenait de diverses unités et avait suivi une série de formations intensives de 5 mois. Krishnamurti a souligné que la participation de la police nationale à cette mission de l'ONU montre le soutien actif de l'Indonésie aux efforts internationaux visant à créer un monde plus sûr et plus pacifique. Le ministère des Affaires étrangères de la République d'Indonésie a déclaré que l'Indonésie souhaite améliorer encore mieux ses relations avec les pays africains à travers le Forum Indonésie-Afrique IAF. L'agence de presse Antara a rapporté mardi 13 août que le directeur de l'Afrique au ministère des Affaires étrangères, Dewi Justicia Mediwati, a déclaré que l'Indonésie a envisagé d'organiser régulièrement ce forum à l'avenir. Mehdi espère que le forum Indonésie-Afrique, qui se tiendra régulièrement, pourra mieux identifier diverses collaborations potentielles afin qu'elles puissent être portées à un niveau supérieur. Le deuxième forum Indonésie-Afrique IAF se tiendra du 1er au 3 septembre 2024 à Bali. Le forum a pour thème l'esprit de Bandung pour l'agenda 2063 de l'Afrique et se concentrera sur les questions liées à la transformation économique, à l'énergie et aux mines, à la sécurité alimentaire, à la santé et à la coopération au développement. L'Indonésie a également lancé le forum de haut niveau sur les partenariats multipartites 2024 du 1er au 3 septembre 2024 à Bali sur le thème « Renforcer les partenariats multipartites vers un changement transformateur ». La division des relations internationales de la police nationale indonésienne, Polri, a déclaré que l'Indonésie est classée 7e en tant que pays qui contribue le plus au maintien de la paix mondiale dans les missions des Nations Unies, ONU. Le chef de la division des relations internationales de la police nationale, l'inspecteur général Krishnamurti dans la régence de Bandung, a déclaré mardi que l'Indonésie avait envoyé 3364 membres de l'armée nationale indonésienne, TNI, et de la police indonésienne, Polri, depuis son affectation à la mission de l'ONU en 1989. Il a expliqué que la 7e place de l'Indonésie dans les contributions mondiales au maintien de la paix était évidente preuve de l'engagement et du dévouement du pays dans la création d'un monde plus sûr et plus pacifique. Bon, chargé de tard, c'est tout. Les nouvelles d'aujourd'hui. Bonsoir à toutes et à tous. Maintenant, c'est le temps pour l'émission du commentaire d'aujourd'hui intitulé « Scouts animés par l'esprit Pancasila protègent la République d'Indonésie ». Ce jeudi, chaque 14 août, l'Indonésie commémore la journée du scoutisme, le thème du 63e anniversaire des scouts cette année, et les scouts avec l'esprit de Pancasila protège la République d'Indonésie. Les scouts sont des organisations éducatives non formelles qui dispensent une éducation scout. Pramuka est l'abréviation de Praja Muda Karana qui signifie les jeunes qui aiment travailler. Dans les activités scouts, les membres apprennent et s'entraînent pour développer des attitudes de discipline, de courage, d'honnêteté, de responsabilité et de coopération, ainsi que de leadership. À travers leurs activités, les membres scouts sont encouragés à se respecter eux-mêmes, les uns, les autres et l'environnement. Désormais, les activités ne se limitent certainement pas à la construction du caractère à travers des activités dans la nature ou dans des contextes sociaux. Considérant que la plupart des membres scouts appartiennent à la génération Z, née entre 1997 et 2012, et Alpha, née entre 2010 et 2011 jusqu'à aujourd'hui, et sont habitués à la technologie et à Internet dès leur plus jeune âge. Les scouts doivent bien sûr s'adapter en utilisant la technologie dans l'apprentissage et la formation. En renforçant leur caractère et leurs compétences, les scouts joueront un rôle important en tant qu'agent de changement dans son discours lors de la cérémonie de commémoration de la 63e journée scout en 2024. Le président du quartier national du mouvement scout, Budi Waseso, a exprimé sa conviction que les ressources humaines préparées par le mouvement scout sont des ressources humaines avec l'esprit de Pancasila, parce que chaque membre est éduqué aux valeurs fondamentales du mouvement scout, à savoir la pratique du Trisatya et du Dasadharma du scoutisme. Sur la base du Trisatya, chaque membre scout promet de s'acquitter sérieusement de ses obligations envers Dieu Tout-Puissant et l'État unitaire de la République d'Indonésie, de pratiquer le Pancasila, d'aider les autres de participer à la construction de la société et d'adhérer au dharma de scoutisme. Pendant ce temps, Dasadharma, ce sont 10 valeurs de base qui sont utilisées comme ligne directrice en matière d'attitude et de comportement. Avec les valeurs inculquées et mises en œuvre, nous espérons que chaque membre scout pourra jouer son rôle en contribuant à l'État unitaire de la République d'Indonésie avec une formation qui donne la priorité à l'intelligence spirituelle, émotionnelle, sociale, intellectuelle et physique. On pense que les scouts peuvent devenir une génération porteuse de changement. Les scouts doivent également jouer un rôle dans la réalisation de Golden Indonesia 2045 en adaptant la technologie numérique dans chaque activité d'apprentissage et de formation. Les scouts restent un forum permettant de former plus de 25 millions de membres en ressources humaines supérieures et compétitives. Je vous souhaite bonne journée du scoutisme. Bon, chers auditeurs, c'est tout. Le commentaire.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici l'histoire d'aujourd'hui. Nous commençons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement du 14 août 1950, jour de la fondation de la province de Kalimantan du Sud en Indonésie.
Le Conseil représentatif régional du peuple au DPRD de Kalimantan du Sud par décret numéro 2 de 1989 du 31 mai 1989 a désigné le 14 août 1950 comme jour de la fondation de la province de Kalimantan du Sud. Cette date a été choisie sur la base du règlement gouvernemental numéro 21 de 1950 de la République d'Indonésie qui marque la création de la province de Kalimantan après la dissolution de la République unie d'Indonésie, RIS, avec le gouverneur Dr. Murjani. À cette époque, le Kalimantan Sud était une résidence aux côtés des résidences du Kalimantan Ouest et du Kalimantan Est. Passons maintenant à l'événement du 14 août 1961, naissance du mouvement Scout indonésien. Le mouvement Scout indonésien est une organisation d'éducation non formelle qui propose une éducation Scout indonésie. Le terme Pramuka est un acronyme pour Praja Muda Karana, qui a le sens « les jeunes qui aiment travailler ». La création du mouvement Scout indonésien était présentée au public lors d'une grande cérémonie à Jakarta le 14 août 1961, après que le président Sukarno ait décerné le drapeau du mouvement Scout par le biais du décret présidentiel numéro 448 de 1961. Cette introduction, le 14 août 1961, est commémorée chaque année comme journée de scoutisme par les membres du mouvement Scout indonésien. Nous terminons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement du 14 août 2005. L'avion d'Helios Airways s'est écrasé au nord d'Athènes, tuant 121 personnes. Le 14 août 2005, le vol 522 d'Helios Airways s'est écrasé près de Grammatiko, en Grèce. Les 121 personnes à bord auraient été tuées dans l'accident. L'enquête a conclu que l'équipage ignorait que le système de pressurisation de l'avion avait été réglé en mode manuel lors de la vérification avant décollage. Un mécanicien au sol l'avait réglé en mode manuel à des fins de test et n'a pas réussi à le remettre en mode automatique par la suite. Cela a provoqué une perte progressive de pression dans la cabine de l'avion au fur et à mesure de sa montée, ce qui a conduit presque toutes les personnes à bord à souffrir d'hypoxie en raison d'un manque d'oxygène. L'avion s'est finalement écrasé dans une zone montagneuse. C'est Ritard, c'était l'histoire d'aujourd'hui pour ce soir.
Everything is good and alright. We're gonna party till the morning light.
Chers auditeurs, c'était la chanson pop indonésienne. Restez chez vous et suivez les règles de santé. Et voici donc mon Indonésie.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici mon Indonésie ayant pour le titre Ministère des Affaires étrangères et Ministère de la Défense Indonésie-Chine tiennent leur première réunion de hauts fonctionnaires. De hauts responsables du ministère des Affaires étrangères, Kemlu, et du ministère de la Défense, Kemhan, d'Indonésie et de Chine, se sont rencontrés mardi dans un dialogue conjoint au niveau des hauts fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères et celui de la Défense d'Indonésie et de Chine à Jakarta, mardi 13 août. La réunion était présidée par le directeur général de l'Asie, du Pacifique et de l'Afrique du ministère indonésien des Affaires étrangères, Abdul Qadir Jailani, avec le secrétaire de la Direction générale de la stratégie de défense du ministère indonésien de la Défense, le général de brigade Oktaheru Ramsi. Comme l'a écrit kemlu.go.id mardi 13 août, le directeur général de l'Asie, du Pacifique et de l'Afrique du ministère des Affaires étrangères de la République d'Indonésie, Abdul Qadir Jailani, a déclaré que la réunion de hauts fonctionnaires s'était ouverte un nouveau chapitre dans le partenariat stratégique global entre l'Indonésie et la Chine. Il a ajouté que c'était le premier dialogue conjoint qui était organisé pour discuter du renforcement de la coopération. Abdul Qadir Jailani a expliqué que ce dialogue avec deux hauts responsables du ministère des Affaires étrangères et du ministère de la Défense sera cette fois un événement de préparation au dialogue de niveau ministériel qui devrait avoir lieu pour la première fois en 2025. La réunion a réussi à convenir d'une coopération en matière de développement des capacités des diplomates et d'une formation conjointe entre les forces armées des deux pays. En outre, les deux pays sont déterminés à renforcer leur coopération pour maintenir la sécurité et la stabilité dans la région, prévenir les actes criminels de terrorisme et lutter contre la criminalité transnationale. Lors de cette réunion tenue au ministère des Affaires étrangères, la délégation chinoise était conduite par le vice-ministre des Affaires étrangères de la RPC, Sun Weidong, et le chef adjoint du Bureau de coopération militaire internationale de la Commission militaire centrale de la RPC, le major général Chiang Pao-chun. Citant un rapport d'Antara, mardi 13 août, dans son discours d'ouverture, le vice-ministre chinois des Affaires étrangères, Sun Weidong, a déclaré que la réunion de haut niveau était la preuve des relations de plus en plus stratégiques entre la Chine et l'Indonésie et reflétait l'engagement des deux pays en développement et l'avancement ensemble. Il expliquait que la coopération avec l'Indonésie à travers le mécanisme 2+2 est une plateforme prioritaire pour continuer à accroître la coopération politique et sécuritaire ainsi que la confiance et l'amitié entre les deux pays. La tenue de la réunion conjointe des hauts fonctionnaires 2+2 Indonésie-Chine est une mise en œuvre du protocole d'accord du dialogue ministériel conjoint des Affaires étrangères et de la Défense convenu lors de la visite du président Joko Widodo à Pékin en octobre 2023. Il est prévu que la tenue du dialogue conjoint 2+2 au niveau ministériel en 2025 fasse partie d'une série de célébrations du 75e anniversaire des relations diplomatiques entre l'Indonésie et la RPC, établie depuis le 13 avril 1950. Chers auditeurs, c'était mon Indonésie pour ce soir.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
Chers auditeurs, c'était la deuxième chanson pop indonésienne. Maintenant, nous allons vous présenter le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien.
Chers auditeurs, le temple Plaosan est situé à Duku Plaosan, village de Bugisan, district de Prambanan, région de Klaten, province de Java Central, Indonésie. Ce complexe de temples est souvent appelé le temple Jumo. Le complexe de temple Plaosan comprend le temple Plaosan Lor et le temple Plaosan Kidul. Avec un billet d'entrée assez bon marché, vous pouvez profiter et apprendre l'histoire de ce temple de Plaosan. La structure du temple est magnifique et soigneusement disposée au milieu d'un grand champ, ce qui rend la vue dans cette zone du temple vraiment incroyable. Le meilleur moment pour visiter ce temple est une heure avant le coucher du soleil, car vous réaliserez une photo esthétique éclairée par le soleil couchant à l'ouest du temple. Le complexe du temple Plaosan est également le lieu du festival du temple Zumo qui a lieu chaque année. Ce festival présente différents types de danses provenant de tout l'archipel. Ce festival est le seul festival culturel à grande échelle organisé à Klaten. Cette activité fait partie d'une série de lancements de villages touristiques en collaboration avec l'Institut Indonésien des Arts, ISI, de Surakarta. C'est Judy Talk, c'était le magazine culturel pour ce soir. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À demain!
Close to me, this one.
Chers auditeurs, c'était la chanson pop indonésienne. Restez chez vous et suivez les règles de santé. Pour la rubrique suivante, voici donc apprendre l'indonésien.
Chers auditrices et auditeurs, bonsoir. On se retrouve dans l'émission Apprendre l'indonésien, une rubrique qui vous présente des vocabulaires indonésiens et vous guide pour parler indonésien. Cette émission est une collaboration entre Voice of Indonesia, la voix d'Indonésie, c'est la station de radiodiffusion à l'étranger de Radio République Indonesia, avec l'Agence nationale pour le développement et le renforcement de la langue, de la recherche et de la technologie du ministère indonésien de l'éducation et de la culture. Vous êtes avec moi, Audrey. Le sujet d'aujourd'hui est Belum pernah berenang dengan hiu. Belum pernah berenang dengan hiu. Jamais nager avec les requins. Bonne écoute. Chers amis, ensuite je vais vous donner un exemple de conversation en indonésien intitulé Belum pernah berenang dengan hiu. Belum pernah berenang dengan hiu. En français, jamais nager avec les requins. Cette conversation se déroule entre Chris, un vlogueur australien, et Ayu, une amie de la communauté de vlog de Chris, sur l'île de Karimun Jawa. Chris a dit à Ayu qu'il n'avait jamais nagé avec les requins. Bon écoute.
Besok kita akan ke pulau menjangan kecil. Di sana kita bisa berenang dengan hiu.
Oh ya? Wah, saya belum pernah berenang dengan hiu. Aman kan?
Tenang saja, hiunya masih kecil-kecil.
Chers amis, après avoir fait écouter la conversation, je vais vous donner et introduire des expressions et des phrases liées au sujet d'aujourd'hui, intitulé « Belum pernah berenang dengan hiu ».« Belum pernah berenang dengan hiu ». »« Jamais nager avec les requins ». Je vous prononce doucement et lentement chaque phrase deux fois, et puis vous pouvez me répéter. « Belum pernah berenang dengan hiu ». Belum pernah berenang dengan hiu. Jamais nager avec les requins. Belum pernah. Belum pernah. Jamais. Berenang. Berenang. Nager. Dengan. Dengan. Avec. Hiu. Hiu. Requin. Aman. Aman. Sûr. Besok. Besok. Demain. Pulau menjangan kecil. Pulau menjangan kecil. Petit île de menjangan. Tenang saja. Tenang saja. Reste calme. Kecil-kecil. Kecil-kecil, petit. Chers amis, dans une conversation, vous avez entendu la déclaration « Saya belum pernah berenang dengan hiu ».« Saya belum pernah berenang dengan hiu ».« Je n'ai jamais nagé avec les requins ». Dans cette déclaration, il y a l'expression « belum pernah berenang dengan hiu ». Belum pernah berenang dengan hiu. Jamais nager avec des requins. L'expression belum pernah. Belum pernah. Jamais auparavant. Dans cet énoncé, la fonction est d'expliquer l'activité de nager avec les requins. Dans le contexte de cette conversation, Chris a déclaré qu'il n'avait jamais fait l'expérience de nager avec des requins. Chers amis, écoutons notre exemple d'utilisation de l'expression « belum pernah ».« Belum pernah », »,« jamais auparavant », pour exprimer une expérience. « Dia belum pernah bermain golf ».« Dia belum pernah bermain golf ». »« Il n'a jamais joué au golf ». « Saya belum pernah berkunjung ke pulau menjangan kecil ». »« Saya belum pernah berkunjung ke pulau menjangan kecil ». En français, je n'ai jamais visité l'île de Menjangan Kecil. Chers auditeurs, dans les îles Karimun Jawa, au centre de Java, il y a 27 îles. Deux des îles utilisent le nom de Menjangan, à savoir l'île Menjangan Besar et l'île Menjangan Kecil. Le nom Menjangan signifie Rusa, ou Sarfa. L'animal que l'on trouve sur les deux îles. La particularité des deux îles est qu'elles abritent une nourserie de requins. Les visiteurs peuvent nager avec les requins. Chers amis, avant de terminer, apprendre l'indonésien. Pour comprendre mieux, écoutons encore une fois la conversation. Bonne écoute.
Besok kita akan ke Pulau Menjangan Kecil. Di sana kita bisa berenang dengan hiu.
Oh ya? Wah, saya belum pernah berenang dengan hiu. Aman kan?
Tenang saja, hiunya masih kecil-kecil.
Chers auditeurs, voilà l'édition d'apprendre l'indonésien pour cette fois. J'espère que cette édition pourra être utile pour vous. Merci de votre attention et d'être fidèle avec nous. Au revoir.
Menjalin cinta untuk selamanya. Oh, siapakah dia ada di sana? Hati ini bertanya-tanya. Tak kusangka ku jatuh cinta pada pandangan pertama. Siapakah
La Voix de l'Indonésie, la diffusion à l'étranger de Radio République Indonésia, présente des émissions dans nos services linguistiques anglais, français, allemand, néerlandais, espagnol, arabe, mandarin, japonais et indonésien. Cette émission radiophonique est diffusée via SW 3325 kHz et 4755 kHz et en streaming sur www.radioreppublic.indonesia. www.voinews et en streaming sur www.voinews.id et RRI numérique. Nous vous présentons divers programmes Charme de l'Indonésie, l'Indonésie en couleur, parlons indonésien, divertissement de musique pop indonésienne, régionale et la chanson au rythme kroncong, ainsi que des actualités et des informations sur l'Indonésie et l'étranger. La voix de l'Indonésie au monde.
Chers auditeurs, c'était la dernière chanson pop indonésienne. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voice.id. Chers auditeurs, nous continuons notre programme avec les informations musicales.
Bonsoir à toutes et à tous. Maintenant, c'est le temps pour l'émission de Magazine Musical. Et cette fois, je vais vous présenter une chanson de Makassar dans le sud de Sulawesi, intitulée Alosi Ripolo Dua. Chers auditeurs, la chanson Alosi Ripolo Dua est une chanson en langue bugis. L'expression Alosi Ripolo Dua en bugis signifie comme une noix d'arec coupée en deux, ou très similaire. Cette chanson raconte l'histoire de deux amoureux qui ont des visages similaires. Certains Indonésiens pensent que si un homme et une femme ont des visages similaires, ils sont identiques. Bon, chers auditeurs, voici la chanson de Makassar, Sulawesi du Sud, intitulée Alosi Ripolo Dua, chantée par Diva Zainab Alwi. Bonne écoute!
See
Chers auditeurs, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez chez vous et suivez les règles de santé. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt.